accent d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. Dans deux jours, les Britanniques, les Écossais et les Irlandais du Nord vont élire les députés de la Chambre des communes et donc un Premier ministre. Rarement une élection n'aura eu autant de conséquences pour l'Europe. Le Brexit aura-t-il lieu? Boris Johnson sera-t-il maintenu à son poste? Y aura-t-il un nouveau référendum? À deux jours de ce scrutin majeur, on vous emmène dans le nord de l'Angleterre. Dans l'ancien comté minier de Durham, le vote travailliste est quasi un réflexe depuis 1935. Mais lors du dernier référendum, ses habitants ont aussi voté pour le Brexit à 57,7%. Résultat, les conservateurs, grâce à leur promesse claire de sortir de l'Union européenne dès le 31 janvier prochain, espèrent déloger l'opposition. Le reportage de Marie Billon.
We're in the Miners' Hall at Redhill. In Durham.
Alan est fier de montrer le Parlement des mineurs du comté de Durham. Pendant près de 60 ans, c'est dans ce grand hémicycle que les représentants des près de 300 mines de la région se retrouvaient pour débattre des conditions de travail ou bien de la situation politique en Angleterre et même au-delà.
Il y a 298 sièges et tous sont numérotés. Chacun représentait une mine. Pendant la grève des années 84-85, il n'en restait déjà plus qu'une dizaine d'ouvertes. Mais tous les délégués se retrouvaient ici régulièrement pour discuter des progrès et de ce que nous devions faire. La dernière mine a fermé en 1993, c'était Weymouth.
C'est là qu'Alan a travaillé pendant 16 ans. Il est aujourd'hui président du syndicat des anciens mineurs. Dans son bureau trône un poster de la colère. On y voit une centaine d'écussons alignés. Chacun est, c'est écrit en gros sur fond rouge, une mine fermée par les conservateurs dans les années 80 et 90. La sienne, Weymouth, est bien présente. Alan, on veut ton corps à Margaret Thatcher et à son gouvernement, en fait, aux conservateurs en général.
Les Tories, ils ne changent pas. Ils ont toujours une vision à court terme pour faire de l'argent très vite. C'est vrai quand on dit qu'ils connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien du tout. Je déteste tout ce qu'il représente. Et je suis pressé d'avoir un gouvernement mené par Jeremy Corbyn. J'espère qu'il aura une majorité absolue pour appliquer son programme socialiste. Cette année, c'est le meilleur programme que j'ai jamais vu depuis que je suis membre.
Alan est adhérent du Parti travailliste depuis près de 40 ans. L'Union des anciens mineurs est affiliée au Labour, mais tous ceux qui ont travaillé dans le secteur ne sont pas restés fidèles à la gauche. Nous retrouvons Derek Milburn dans un pub du centre-ville de Durham. Derek connaît bien Alan, mais politiquement, ils ne s'entendent pas. Pour Derek, le Labour n'est plus le parti des ouvriers.
J'ai toujours voté travailliste, jusqu'à ce que Nigel Farage débarque. Je me suis dit que c'était une voie nouvelle et que ce qu'il disait faisait sens. Alors, j'ai changé de crémerie.
Derek a voté pour sortir de l'Union européenne en 2016 et cette année, il va donc donner sa voix au Brexit Party. Il en a assez d'attendre et pour lui, voter conservateur, ce n'est pas envisageable.
Je suis très déçu des deux partis de gouvernement. C'est impossible de passer des travaillistes aux conservateurs. Ça ne se fait pas, c'est traditionnel. Je ne sais pas comment dire, c'est dans le sang. Mais le Brexit Party est fait de gens qui ont les pieds sur terre, des travailleurs.
Down to earth, they are working men.
Durham est aussi une ville étudiante. L'université a ses locaux, dont le château médiéval perché en haut d'un rocher. Mais les jeunes n'ont pas permis de faire basculer le vote régional en faveur du oui pour rester dans l'Union européenne en 2016, même si les 18-24 ans, pour ceux qui se sont déplacés, ont voté à 70% contre le Brexit dans le pays. Et cette année, les étudiants de Durham ne vont pas non plus faire résonner leur europhilie dans les urnes.
Je m'appelle James, j'ai 21 ans, j'étudie le droit. Je crois que j'ai décidé de voter conservateur. J'ai voté Labour aux dernières élections, mais à cause de son programme et parce que je ne fais pas confiance à Jeremy Corbyn à la tête du pays, j'ai changé d'avis. J'ai voté contre le Brexit et je suis toujours contre, mais si ça doit arriver, autant que ça arrive vite. Et les conservateurs sont mieux placés pour ça que les travaillistes. Je comptais voter par courrier dans la circonscription de ma famille, mais c'est un siège conservateur sûr. Donc j'ai décidé de voter ici, car c'est une circonscription serrée, alors mon vote aura plus d'impact.
James rentre chez lui avec deux de ses camarades. L'un fera exactement comme lui, l'autre a décidé de ne pas participer au scrutin, même s'il a, lui aussi, voté contre le Brexit en 2016. Ce jeune homme n'est pas satisfait de l'offre politique et il n'est pas le seul à Durham, quelle que soit la tranche d'âge.
Jeremy Corbyn, je n'aime pas. J'estime qu'il est dangereux. Boris Johnson est tout aussi mauvais, donc il faut décider lequel est le moins pire des deux. Les libéraux-démocrates sont les meilleurs, mais je ne les imagine pas avoir la majorité. Donc voter pour eux, n'est-ce pas donner les clés du pouvoir au pire des deux premiers ?
Je n'ai pas encore décidé. Normalement, je vote travailliste. J'aime bien leur programme. Mais j'ai du mal avec Jeremy Corbyn. En tout cas, je ne vais certainement pas voter conservateur. Ces 10 dernières années ont été trop mauvaises. Mais la politique a beaucoup changé aujourd'hui. J'avais confiance en nos députés et nos premiers ministres avant.
Tout est différent depuis le référendum, dit cette dame. Ce scrutin est appelé l'élection de Noël par certains médias britanniques, l'élection du Brexit par d'autres. Et c'est effectivement un enjeu important. Mais les autres thèmes de campagne, la sécurité sociale, l'éducation, les investissements dans les infrastructures, sont restés en arrière-plan. Résultat, les régions du Nord, comme Durham, qui se sentaient déjà négligées par Westminster, se sentent d'autant plus délaissées.
En Italie, officiellement, les migrants sont de moins en moins nombreux à arriver sur les côtes du pays. Selon le ministère de l'Intérieur, ils sont un peu plus de 10 000 depuis le début de l'année, soit moitié moins qu'en 2018, à la même période, et près de 91% de moins qu'en 2017. Mais dans le même temps, c'est un autre phénomène qui augmente, celui des arrivées fantômes. Cécile Debarge, vous êtes notre correspondante en Sicile. Ces bateaux fantômes, qu'est-ce que c'est exactement ?
Eh bien, les sbarchi fantasma, ces arrivées fantômes, comme on le lit un peu partout dans la presse italienne, ce sont les arrivées sur les côtes italiennes de bateaux qui ne sont pas interceptés par les autorités. Combien sont-ils exactement ? C'est très difficile à dire. Il faut garder une chose en tête, c'est que lorsqu'on parle d'immigration en Italie, tout le monde pense à la petite île de Lampedusa. Et c'est souvent un tort, car je vous rappelle que le pays compte près de 7500 km de côte, soit autant d'endroits où un bateau peut accoster. Évidemment, certaines zones du pays sont plus propices que d'autres, c'est le cas notamment de la Sicile, et en particulier de la province d'Agrigente, dans le sud de l'île, où j'ai rencontré Claudio Lombardo. Ce militant pour la protection de l'environnement habite à 300 mètres environ de la plage, et en surveillant les côtes, il est devenu témoin de ce phénomène, comme lorsque nous sommes allés à la plage de Zingarello.
Alors ça, c'est un bateau de pêcheurs qui est parti de Monastir en Tunisie. Il fait environ 10 mètres de long, il y a encore les filets de pêche à bord, même si maintenant ils sont détruits. Et c'était l'hiver quand je l'ai découvert. Ils sont arrivés pendant la nuit, et ils ont laissé le bateau sur les rochers, ils ont grimpé sur cette colline et ils ont disparu. Ces personnes qui sont arrivées avec ce bateau ne rentrent pas dans les comptes du ministère de l'Intérieur. Donc on ne peut pas donner un numéro d'arrivée pour des bateaux fantômes, justement parce qu'ils font tout leur possible pour ne pas être identifiés. Et on ne saura jamais combien ils sont.
Alors la ministre de l'Intérieur elle-même a parlé d'une augmentation significative de ces bateaux fantômes. 7500 personnes seraient arrivées ainsi depuis le début de l'année. D'où viennent ces chiffres ?
Ce sont des chiffres qui sont probablement largement sous-estimés. Pendant longtemps, le ministère de l'Intérieur italien n'a pas du tout communiqué à ce sujet. Lorsque Matteo Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur, vantait sa politique des ports fermés, les bateaux fantômes étaient en réalité nombreux avec des arrivées toutes les semaines en Sicile, mais pas un mot. Aujourd'hui, ce chiffre de 7500 est une estimation dont on ne sait pas bien comment elle est calculée, d'autant plus que les bateaux fantômes dont on trouve les épaves ne sont qu'une petite partie du phénomène, car de nombreux bateaux amènent les migrants à terre pendant la nuit et repartent aussitôt dans l'autre sens sans laisser aucune trace. De ces migrants-là, on a encore moins une idée de leur nombre. Seuls les habitants des environs, comme Claudio Lombardo, se rendent compte de leur présence.
On sait qu'ils sont arrivés soit en voyant le bateau le lendemain matin, soit en voyant leurs vêtements de rechange, car ils changent leurs t-shirts et leurs jeans, étant donné qu'ils sont trempés. Donc, ils amènent avec eux un petit kit de survie avec un jean, un t-shirt, une veste, une bouteille d'eau et une bouteille de lait. C'est un vrai petit kit.
Claudio dit en avoir retrouvé des centaines, en particulier au cours des derniers mois. Et puis, il y a aussi les tout petits bateaux qui n'éveillent aucun soupçon. Il est difficile d'imaginer qu'ils aient tous été recensés par le ministère de l'Intérieur, comme cet exemple survenu il y a quelques semaines dans le sud de l'île.
Ce sont de tout petits bateaux avec entre 10 et 20 personnes à bord. L'autre jour, ils sont arrivés sur une petite plage pas très loin d'ici. L'agence de presse italienne en a parlé, car ils sont arrivés en ramant. en ramant. C'est incroyable. Une minuscule barque avec des rames et 3 migrants à bord. Et ils sont arrivés tranquillement, sans aucun contrôle.
Mais que se passe-t-il une fois que les passagers arrivent à terre? Est-ce qu'ils réussissent à ne pas se faire intercepter par les autorités italiennes?
Le plus souvent, une fois changés avec des vêtements secs, ils marchent pendant des kilomètres jusqu'à Agrigente, où ils se déplacent ensuite en bus ou en train et tentent le plus souvent de continuer leur voyage incognito vers d'autres pays européens. Régulièrement, on lit dans les entrefilets de la presse locale que la police a arrêté de petits groupes de 7, 8, 10 personnes. Sont-ils plus à passer entre les mailles du filet? Impossible à savoir, la quasi-totalité de ces migrants sont en tout cas des Tunisiens. Depuis les côtes du sud de la Sicile, la Tunisie n'est qu'à 140 km.
Merci Cécile Desbarges. Deviennent les migrants une fois sur le sol européen. Accent d'Europe vous propose aujourd'hui un zoom sur la communauté syrienne. 6 millions d'entre eux se sont exilés depuis le début de la guerre civile dans leur pays en 2011. La Turquie est le premier pays d'accueil de ces réfugiés avec 3,5 millions de Syriens. Mais pas très loin derrière, il y a aussi l'Allemagne. Plus de 700 000 Syriens y vivent. C'est le plus gros contingent de demandeurs d'asile outre-Rhin. Comment s'intègre-t-il? Élément de réponse avec notre correspondante Déborah Berlioz.
Les belles histoires sur les réfugiés syriens ne manquent pas en Allemagne. Il y a par exemple Abdul Abassi. Adolescent, il a fui seul Alep avant de faire des études de dentiste à Göttingen et d'écrire un livre sur son intégration. Il y a aussi cette famille de pâtissiers originaires de Damas. 40 ans qu'ils vendaient leurs gâteaux dans la capitale syrienne quand la guerre civile a éclaté. Obligés de tout quitter, ils ont rouvert un magasin à Berlin en 2016. Ces réussites ne sont cependant pas représentatives. Environ 2/3 des réfugiés syriens en âge de travailler vivent de l'allocation sociale Hartz IV, l'équivalent du RSA. Dans ce chiffre, il y a ceux qui cherchent un emploi, mais aussi ceux qui suivent des cours d'intégration ou qui ne gagnent pas suffisamment pour vivre de leur travail. Pourtant, les réfugiés syriens sont en moyenne mieux éduqués que les autres demandeurs d'asile. Seuls 8% d'entre eux ne sont jamais allés à l'école et 32% ont un diplôme du secondaire ou un apprentissage. D'ailleurs, le cliché du médecin syrien n'est pas infondé. En Allemagne, près de 4000 Syriens exercent la médecine, ce qui en fait le deuxième groupe de médecins étrangers après les Roumains. Toutefois, tous ces docteurs ne sont pas des réfugiés, loin de là. Beaucoup sont des immigrés classiques. Dans tous les cas, l'intégration des demandeurs d'asile est un long processus. Ils doivent apprendre la langue et faire reconnaître leur diplôme reste compliqué. Selon les estimations, moins de 40% des Syriens en auraient fait la demande. Mais les chiffres sont encourageants. Ainsi, le taux de chômage des réfugiés syriens est passé de 49 à 42% en un an.
Direction la Turquie à présent, premier pays d'accueil au monde des réfugiés syriens, on vous le disait. Dans ce pays, on entend souvent dire que les autorités n'ont rien fait pour garder les plus qualifiés d'entre eux. Certains ont même parlé d'une fuite des cerveaux syriens. Mais il y a 3 ans, le gouvernement turc, avec l'aide de financement européen, a mis sur pied des centres de soins dédiés aux réfugiés dans tout le pays. Depuis décembre 2016, 178 centres ont été créés, une façon d'offrir un avenir professionnel à près de 1600 médecins et infirmiers syriens. C'est le reportage d'Anand Lauer.
C'est un bâtiment de 4 étages dans le vieux quartier de Fatih, sur la péninsule historique. Les murs sont clairs, le sol brillant, l'accueil courtois et en arabe. Le visiteur présente une pièce d'identité, on lui tend un ticket avec un numéro, et quelques minutes plus tard, gratuitement et sans rendez-vous, un médecin le reçoit. Ou bien une infirmière, une psychologue, une assistante sociale, une diététicienne ou une physiothérapeute. Nous sommes dans l'un des 177 centres dits de santé des migrants créés ces 3 dernières années sur le territoire turc. Leur financement à 100% européen. C'est le projet SEHAT, 300 millions d'euros prélevés sur la première enveloppe de 3 milliards d'euros alloués par les États membres et la Commission européenne pour aider la Turquie à accueillir les Syriens. Dans le cadre de ce projet, 196 millions d'euros ont déjà été déboursés. Ils servent entre autres à louer les bâtiments, les équiper, à salarier les personnels, les former. Tous, ou presque, sont eux-mêmes Syriens. Et cela change tout pour les patients. C'est ce qu'explique Safa, souriante, sous son voile bleu et noir. Réfugiée en Turquie depuis bientôt 6 ans, elle consulte pour ses allergies.
Ici, on est très bien accueillis. Comme nous parlons la même langue, il n'y a aucun problème de compréhension. Les médecins et les autres personnels sont à l'écoute. Je peux leur expliquer ce qui ne va pas et obtenir mes médicaments. Je suis contente.
Rapidement, après l'arrivée des premiers Syriens, le gouvernement turc leur a donné accès au système de santé public. Ils pouvaient, et peuvent toujours, se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux et centres médicaux gérés par l'État, à la condition d'être enregistrés. Mais ils sont de plus en plus nombreux à préférer ces établissements financés par l'Europe. Parce qu'ils y trouvent plus que du soin, explique Ektemal Saadek, une infirmière syrienne employée dans ce centre créé il y a 2 ans.
Les patients sont à l'aise, ils peuvent parler de tout et nous confier certaines choses. Par exemple, quand je vaccine un enfant, j'en profite pour discuter avec la mère, lui demander comment elle va, comment elle vit, si elle a des problèmes. Et souvent, elle se confie.
De 8h à 17h, Ektemal et ses collègues écoutent, soignent et préviennent les maladies. L'infirmière passe l'essentiel de son temps à administrer des vaccins. Le projet Serhat a déjà permis de vacciner 650 000 enfants à travers la Turquie. Le docteur Abdullah Ali Selam, l'un des 7 médecins du centre, lui, renvoie régulièrement ses patients vers la psychologue du dernier étage.
Je dirais que 60% des patients souffrent de troubles psychosomatiques. C'est-à-dire qu'ils arrivent en se plaignant, par exemple, d'une douleur au ventre. On fait des tests, tout est bon. On fait un contrôle clinique, tout est bon. Et puis en discutant, on se rend compte que ce patient a surtout besoin d'une aide psychologique.
À travers la Turquie, le projet Serhat a permis d'embaucher près de 3200 personnels de santé, dont 94% de Syriens. Pour ces professionnels qui n'ont normalement pas le droit d'exercer en Turquie, le projet est une aubaine. Le docteur Ali Selam.
La grande différence pour moi, c'est que je travaille désormais de manière légale et tout à fait officielle, sous l'autorité d'une institution, le ministère de la Santé. Je peux même rédiger des ordonnances. C'était inespéré.
Ektemal, l'infirmière, est-elle aussi ravie d'exercer le métier qu'elle aime après 7 ans de vie en Turquie?
Pendant mes premières années dans le pays, je gagnais ma vie sur les marchés. Mais ce n'était pas mon métier. J'ai travaillé comme infirmière pendant 15 ans en Syrie. J'aime beaucoup mon travail et c'est une chance pour moi de pouvoir l'exercer ici. Ce n'est même pas une question de salaire, car je gagnais à peu près la même chose en vendant des manteaux sur les marchés. Mais là, je fais ce que j'aime. J'ai l'esprit apaisé.
Avec l'éducation, la santé est une priorité de l'Europe dans ses actions envers les Syriens de Turquie. Serhat est d'ailleurs le plus gros projet de santé jamais financé par l'Union européenne. La création de ces centres de soins était une évidence, souligne Christian Berger, ambassadeur de l'UE en Turquie.
Quand 3,5 millions de Syriens, en réalité sans doute plus, arrivent en Turquie, c'est immédiatement une charge très lourde pour les infrastructures locales, pour les centres de soins, les écoles. Or, les gens ont besoin de ces services rapidement. Bien sûr, les réfugiés ont aussi accès au système de santé publique, mais il fallait augmenter ses capacités. Et c'est là que nous sommes entrés en jeu. Nous avons fait en sorte que cette population supplémentaire puisse, elle aussi, bénéficier de soins sans diminuer pour autant la quantité et la qualité des services offerts aux communautés locales.
La première phase de ce projet s'achèvera en novembre 2020. L'Union européenne a promis à la Turquie une autre enveloppe de 3 milliards d'euros, dont 210 millions pour la seconde phase du projet Serhat jusqu'en 2024. Christian Berger.
Nous sommes tout à fait conscients du problème de la durabilité des projets. C'est un sujet très important. Nous ne voulons pas bâtir quelque chose et partir. En plus de la deuxième enveloppe, nous avons mis de côté 90 millions d'euros pour les infrastructures de santé. Il faut savoir que la plupart des centres de soins sont loués. Nous voudrions donc fournir des financements pour que le gouvernement turc puisse les acheter et continuer à offrir des services dans ces centres, même lorsque l'aide européenne aura cessé.
Et ensuite, après 2024, qu'adviendra-t-il de ces centres de soins, de tous ces projets financés par l'Europe ? Personne n'a la réponse, car personne ne sait encore quels seront les besoins, combien de Syriens vivront encore en Turquie et combien seront repartis. Les autorités espèrent envoyer au moins 1 million d'entre eux dans une hypothétique zone de sécurité en Syrie.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous retrouver, nous écouter, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.